Donc nous poursuivons une fois par mois une étude biblique le premier dimanche de le premier dimanche du mois, c'est ça. Et c'est l'épître Colossiens. Et donc c'est le chapitre 3 à partir du verset 18. Ce sont des textes difficiles à comprendre, qui sont un peu abrupts sous la plume de l'apôtre Paul dans cette épître, et qui arrivent d'ailleurs assez brusquement dans le chapitre, après des exhortations à chanter Dieu de tout votre cœur, à être rempli de la parole de Dieu, avoir des pensées, on va dire, doctrinales. Tout à coup, dans la lecture de cette épître dans l'église, à Colosse, femme, mari, enfant, père. Ouh, ça commence dur. Il me revient de lire ce texte. Et donc, j'ai accepté l'offre de Joël pour présenter cette partie. Je prends des risques. Alors, je me suis inspiré d'enseignements que nous donnons avec Elisabeth dans d'autres cadres, dans différentes thématiques. Et pour certains sujets difficiles, la voix d'Elisabeth était plus opportune que la mienne, mais voilà. Il y aura aussi une diapo empruntée, un diaporama qu'avait Joël et Anne avaient présenté une fois. Une diapo, je crois, empruntée à toi, Olivier. Quand tu avais parlé sur homme et femme, l'identité. Alors, des textes qui peuvent produire des polémiques. Je vais prendre le courage de parler de la soumission, de l'autorité, de ne pas irriter nos enfants. Je vais lire ce texte dans la version nouvelle NBS. Femmes, soyez soumises à votre mari comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréé dans le Seigneur. Père, il y en a plusieurs ici. N'exaspérez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Et puis, Paul évoque des relations professionnelles. Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme s'il s'agissait de plaire à des humains, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Quoi que vous fassiez, travaillez-y de toute votre âme, comme pour le Seigneur et non pour des humains. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez comme des esclaves du vrai Seigneur, le Christ. Car celui qui agit injustement recueillera l'injustice qu'il a faite, car Dieu n'avantage personne. Maître, traitez vos esclaves d'une façon droite et juste. Rappelez-vous que vous avez, vous aussi, un maître dans les cieux. La doctrine, on va dire divine, dont Paul a d'ailleurs évoqué plusieurs aspects dans le même chapitre au début, colore les détails de notre vie quotidienne. Et cette doctrine répand comme un parfum sur nos devoirs et nos devoirs dans nos relations. Induit le respect dans nos relations. Au verset 12 du même chapitre, les chrétiens sont invités à se revêtir d'entrailles de miséricorde. Olivier, il y a un mois, l'avait évoqué. C'est un terme très fort, hein, puisque ça évoque nos tripes. Entrailles, c'est nos tripes. Ce qui est vraiment plus profond, notre intérieur. Et indique que nous ne devons pas être miséricordieux seulement à l'occasion, mais que nous avons à posséder intérieurement et à revêtir ce caractère dans le plus profond de notre cœur. Et il doit émaner de ce qu'il y a de plus profond dans notre être intérieur, cette miséricorde, et qui va donc exiger une cohérence entre ce que Elisabeth voit de moi, par exemple, et vous voit de moi, et puis de mon être profond. Des fois, on n'aimerait pas que ce qui est au plus profond paraisse à l'extérieur. Et Jésus nous dit, revêtis-vous de ce qui est au plus profond, d'entrailles et de miséricorde. Un contraste intéressant dans ce chapitre. Au début, Paul nous exhorte à penser aux choses d'en haut, penser aux choses éternelles. Et puis, il aborde les relations entre chrétiens dans l'Église. Et puis, à la fin de ce chapitre, on ne pense pas aux choses éternelles, aux choses d'en haut. Il parle de la réalité. Et la réalité quotidienne. On ne peut pas séparer la vie quotidienne de la spiritualité pour un chrétien. Et puis notre manière de penser influence nos actions. Et donc nos actions au sein de notre famille, il faut que ça soit fortement influencé par nos pensées. Elles sont fortement de toute façon influencées par nos pensées. Et donc il faut que nos pensées soient en haut pour que nos actions puissent refléter quelque chose de Dieu. Les banalités de la vie quotidienne représentent, j'en sais rien, mais je ne sais pas, 90-95% ou plus de notre vie, quoi, je veux dire. On n'a pas un moment de culte comme on a chanté tout à l'heure, digne à l'agneau de Dieu. C'est passé à 24 heures sur 24 toute la semaine. Et la plupart du temps de notre temps, c'est la réalité quotidienne. Et donc, si on n'arrive pas à mettre Dieu dans cette réalité quotidienne, dans la préparation du repas, dans l'aide aux devoirs des enfants, quand je parle à Elisabeth, ou quand je l'écoute, eh bien, je manque quelque chose de la force du christianisme. Alors Paul va écrire en quelques phrases très abruptes ici, alors que c'est beaucoup plus un peu plus délayé dans le passage correspondant d'Éphésiens, Éphésiens 5, verset 22 au chapitre 6 du verset 9. Il y a beaucoup plus de développement. Ici, Paul écrit en quelques phrases des mots-clés pour les relations dans la vie nouvelle. Alors, dans les relations au sein de la famille, et puis les relations plus générales, comme dans le milieu professionnel. Le rôle des femmes, des maris, des enfants, des pères, des employés, des employeurs. Il utilise un mot-clé à chaque fois. Et pour évoquer ces mots-clés, je m'avance sur un terrain difficile. Ce n'est pas politiquement correct dans notre société aujourd'hui. En premier lieu, nous avons les relations naturelles établies de Dieu dans le foyer familial. Donc, les épouses, les époux, les enfants. Remarquons que le Seigneur est partout invoqué comme celui qui a l'autorité, la source de toute autorité, et qu'il est présent au sein de la vie familiale. Ah, comme le Seigneur. Et cette autorité est invoquée pour les personnes à qui, ici, dans ce texte, est particulièrement demandée la soumission. Il est parlé aussi. Si les femmes doivent être soumises, cela convient dans le Seigneur. Si les enfants doivent obéir, cela est agréable dans le Seigneur. Alors, pour le rôle des épouses, Paul utilise un mot-clé inaudible aujourd'hui, la soumission. Pour les maris, Paul va utiliser un mot-clé, et c'est l'amour. Est-ce novateur pour l'époque romaine? Je ne sais pas. Pour le mari, en tout cas. Paul peut dire en Galates, en Christ, il n'y a ni homme ni femme. C'est une perspective égalitaire dans la pensée des temps. Mais avec une hiérarchie. Et c'est un sujet brûlant. Le chef de tout homme, c'est le Christ. Le chef de la femme, c'est l'homme. Le chef du Christ, c'est Dieu. L'épouse ne cesse pas d'être la compagne du mari et son aide, comme l'évoquent les paroles créationnelles dans le livre de la Genèse. Et quand il est dit que il lui faut une aide qui lui corresponde dans la Genèse, et il est repris dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, le mot « aide » est un mot traduit, donc un terme hébreu, qui est utilisé 21 fois, je crois, dans l'Ancien Testament, et 15 fois sur ces 21, c'est utilisé quand Dieu aide l'homme. Et c'est traduit souvent par « secours ». Dieu secourt l'homme. Alors le mot « aide » élève la position de la femme et le rôle de l'épouse au rôle de Dieu, car que le rôle de Dieu a pour l'homme. C'est un grand honneur. Élisabeth n'est pas ma servante. Elle est mon aide au même titre que Dieu aide l'homme. Donc dans ce mot « aide », il faut, c'est au contraire, c'est une élévation de la femme. Au rôle de Dieu en soutien pour l'homme. Elisabeth, c'est pas mon esclave. Quand on aborde le sujet de la soumission, on pense actuellement souvent dans le milieu chrétien aux femmes, mais c'est un sujet qui concerne chacun, hommes et femmes, enfants. Nous sommes tous appelés à la soumission. L'assemblée à Christ, les hommes sont aussi soumis à Christ, nous sommes soumis les uns aux autres, et Christ à Dieu. Le sujet peut être fâché, le sujet peut être refusé. Cette décision divine de l'organisation familiale et sociétale n'est plus acceptée aujourd'hui comme étant un facteur de stabilité et de mieux-être. Mais lorsque nous nous soumettons aux lois de notre pays, de la France, nous nous soumettons, mais ça ne veut pas dire que nous sommes inférieurs à ceux qui ont établi ces lois. Mais on accepte un système et de vivre dans ce système pour trouver un équilibre. Paul met des limites à cette soumission. Premièrement, il est écrit que la soumission est à son mari. Ce n'est pas une soumission à tous les hommes. Et d'ailleurs, dans l'entreprise, il y a des femmes qui ont des rôles de chef. Et des hommes, sous l'autorité de cette femme, doivent obéir, bien sûr. Donc ce n'est pas une soumission sociétale, familiale, dans une relation donc limitée. Une autre limite, c'est qu'elle est soumise comme cela convient au Seigneur. C'est-à-dire qu'il y a des formes de soumission au mari qui ne conviennent pas. Il y a des situations où cette soumission n'est pas biblique, n'est pas correcte, n'est pas légitime. Dieu ne nous appelle pas à vivre dans des situations abusives. Et donc, en tant qu'homme, je le répète assez souvent dans d'autres circonstances, j'ai honte en tant qu'homme des abus des hommes depuis 2 millénaires sur les femmes. J'en ai honte. Il est vrai que des maris exercent mal leur autorité. Ça a peut-être servi, ces textes-là, à un asservissement, voire à la violence conjugale. Il est peut-être vrai aussi que des épouses ne considèrent pas comme une bénédiction ce texte-là. Alors on va y réfléchir un peu plus. Qu'est-ce que c'est que la soumission ? Là, j'emprunte une diapositive que Joëlle avait, que Anne avait même présentée une fois. La soumission n'est pas une suggestion, ni une subordination, ni une oppression, ni une obéissance servile, et ce n'est pas l'acceptation d'un rôle inférieur. Étymologiquement, c'est se mettre sous. Donc se mettre volontairement sous. Accepter une autorité, respecter, accepter un leadership. Dans la parole, il n'est jamais demandé de soumettre quelqu'un. La soumission est un choix librement décidé. Et s'il n'y a pas de liberté, il ne peut pas y avoir de soumission. Libre, décidé. Là, je vais emprunter à Olivier à propos de ce texte d'Éphésiens 5 qui est un parallèle de ce qu'on a lu en Colossiens. Je vais lire peut-être ce texte d'Éphésiens 5. C'est vrai que dans la version Darby que certains peut-être utilisent, il y a un changement de paragraphe entre le verset 21 et 22, et avec une répétition au verset 22 de la soumission. En fait, dans l'original, c'est pas. Il faudrait lire « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ, ainsi les femmes à leur mari, comme au Seigneur. Car l'homme est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, en tout cas, comme l'Église se soumet au Christ. » Qu'ainsi les femmes se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle. Dans ce texte, c'est d'abord une soumission mutuelle qui est envisagée. Car double soumission au Christ. Alors si pour le mari, le Christ est le modèle pour aimer l'épouse, comment Christ dirige son Église? C'est le chef serviteur. Donc ce n'est pas celui qui a servi. Qui a servi l'asservissement, voilà. C'est pas ça. Hein. Il sert l'Église. Il a acquis en mourant pour elle. Et en fait, Jésus donne quelques lignes générales pour le fonctionnement de l'Église, mais la laisse vraiment libre de faire son chemin. Et Jésus aime son Église quoi qu'elle fasse. L'homme est le chef de la femme, c'est-à-dire celui qui doit protéger, qui doit conduire, qui se met au service de la femme. J'aime bien citer un exemple de Sarah, et Abraham dans l'Ancien Testament. Il est dit en 1 Pierre 3 que Pierre dit que Sarah obéissait à Abraham, l'appelant Seigneur. Et pourtant Dieu a demandé positivement à Abraham d'obéir à sa femme. Nous le trouvons en Genèse 21, verset 12. Dieu dit à Abraham, écoute tout ce que Sarah te dira. Et puis Abraham a appelé sa femme Sarah, c'est-à-dire princesse. Dans cet énoncé de la soumission des femmes, on n'aura pas une réponse à toutes les interrogations. Pour les hommes, pour les femmes, hein, particulièrement pour les femmes, pourquoi ce texte-là de soumission au mari? Il y a aussi quand même des interrogations et un mystère. Alors, c'est souvent Elisabeth qui dit, voilà, c'est moi qui vais le dire, mais ça serait mieux si c'était Elisabeth. Et on peut citer le texte d'une femme, la femme de Timothy Keller, qui s'appelle Cathy Keller, et qui a écrit, je cite, « Si les hommes et les femmes sont égaux en dignité, pourquoi l'homme est-il le chef? Pourquoi les femmes sont-elles appelées à la soumission ?» La réponse à cette question est peut-être dans une autre question. Pourquoi est-ce Jésus, le Fils, qui s'est soumis et a servi? Pourquoi a-t-il abandonné son autorité au Père? Nous n'en savons rien. Mais nous savons que c'était un signe de sa grandeur et non de sa faiblesse. Je poursuis la citation. Les femmes sont appelées à suivre Jésus sur ce point. Donc vous, les épouses, vous avez le privilège de suivre Jésus sur ce point. Je continue la citation. Mais n'oubliez pas qu'exercer son autorité correctement est aussi difficile que de s'en dépouiller. Fin de citation. Alors venons à cette notion d'autorité. L'homme a un rôle d'autorité quant à la conduite de la famille, je pense aussi de l'Église. Mais c'est dans une acception chrétienne de l'autorité. C'est-à-dire une charge qui est caractérisée par l'amour, par le service, la responsabilité, le soin. Jésus, chef, serviteur. L'autorité n'est pas pour pallier un manque de compétences, mais pour orienter les compétences communes. L'autorité n'est pas du tout un droit systématique de regard sur chaque décision ou chaque action, pas du tout. L'autorité n'est pas la domination, qui serait l'affirmation de la volonté de l'homme sur la femme, sans prise en compte de son égalité spirituelle, de ses droits, de sa valeur. Ça n'a rien à voir avec l'autoritarisme. Il y a eu beaucoup de déviances dans l'humanité de la part des hommes et dans la chrétienté. Et comme Christelle a évoqué pour les femmes d'Afghanistan, mais quelle honte l'attitude des hommes. Ça en pleurait. Et j'ai honte en tant qu'homme, je le répète devant les femmes, j'ai honte de ce que l'homme fait à la femme. Et puis, dans la chrétienté en France. Et puis, dans le monde évangélique en France. Et puis, serait-il parmi nous des attitudes qui ne conviennent pas pour nous les hommes. L'autorité est évidemment partagée dans le couple et déléguée sur un grand nombre de domaines. Peut-être que l'autorité renvoie à la responsabilité de trancher un dernier ressort et d'assumer. En fait, en parlant avec des couples beaucoup plus âgés, et puis nous, on peut encore aussi témoigner avec Elisabeth, globalement, pour des choses essentielles, on est voilà, d'accord. Donc, ce n'est pas une difficulté. C'est ensemble qu'on décide. Et c'est ensemble qu'on choisit notre vie. C'est arrivé peut-être petites occasions, on va dire, ça se compte sur les doigts d'une main dans notre vie, on va dire, ou sur quelque chose, on n'était pas d'accord, et il y avait une question d'urgence à prendre une décision. Quand il y a une urgence à prendre une décision et qu'on n'est pas d'accord, que fait-on? Ben là, il faut prendre une décision. Ça peut être sur le plan matériel, sur le plan... Voilà. Eh bien, si dans ce cas-là, c'est peut-être le rôle justement du chef de famille, mais attention, il prend la responsabilité de la décision et des conséquences. L'autorité vient aussi d'un mot latin qui veut dire capacité à faire grandir, c'est-à-dire tirer vers le haut. Tirer le meilleur de chacun. Comme dans l'entreprise, hein, je le répéterai peut-être pas, mais dans les relations professionnelles qu'on va voir après, je dirai qu'un tout petit mot, eh bien, un bon chef, il y en a ici. Eh bien, tirer le maximum des capacités de personnes qui sont sous votre responsabilité. C'est votre rôle. C'est de faire élever vers le haut. Alors nous les maris, pensons à cet aspect-là dans notre relation de couple. Le mari, tu l'as mis en introduction, Philippe. Ça serait peut-être mieux que ce soit une femme qui parle, qui nous exhorte, nous les maris. Marie, aimez votre femme et ne vous écrissez pas contre elle. On oublie de lire cette fin de verset, souvent. Ce n'est pas très lu, n'est pas très commenté. Je suis mal placé, peut-être, pour en parler. Ça m'arrive d'avoir de l'irritation contre ma femme. Et Elisabeth le sait, elle le voit d'ailleurs. Donc, je préfère pas trop en parler. Je propose 30 secondes de silence. Et que chaque mari puisse le mot-clé pour les maris, c'est l'amour. Mais c'est l'amour agapé, en grec, c'est-à-dire un amour divin, c'est-à-dire un amour qui se donne. On oublie ça peut-être, nous les hommes. C'est quoi, Dieu me le rappelle. Et ajoute, ne sois pas aigri, ne t'irrite pas vis-à-vis de ta femme. Et puis dans le passage d'Éphésiens 5 parallèle, de même comme le Christ, le mari doit aimer sa propre femme, il la nourrit, la chérit, comme le Christ l'assemblée. Jésus a donné sa vie pour elle. C'est-à-dire qu'il nous, pour nous, c'est comme c'est notre modèle, pour nous les hommes. Il faut peut-être que ça nous invite à un décentrage de soi au profit de l'autre, de sa femme. Jésus l'a purifié par la parole. Alors cela nous exhorte, nous les hommes, à être des hommes de parole, c'est-à-dire d'être nourris de cette parole divine pour pouvoir nourrir sa propre épouse. Jésus a fait le choix de l'aimer, de l'avoir belle, même sans ride, même sans tache. Pour nous les hommes, alors, ne passons pas du temps à relever des défauts de notre femme, qu'on puisse la voir belle. Élisabeth, tu es belle, à mes yeux. Demandons à Dieu la grâce de pouvoir aimer sa femme, de pouvoir la choyer. Jésus l'a vue digne de Dieu. Voyons en notre épouse une personne qui est aimée de Dieu, qui est digne de Dieu, une sœur en Christ, une co-héritière avec Christ. Jésus l'aime comme lui-même. Alors, ce n'est pas du tout du narcissisme, mais c'est une réelle conscience de sa valeur. La barre est en fait très haut pour les hommes, et peut-être plus haut que pour les femmes. Paul donc ajoute cette qualification à cet amour qui doit être vécu sans aigreur, sans irritation. Sans doute que la femme a particulièrement besoin d'affection, de tendresse. Et l'irritation peut gommer ça. Un mot pour les enfants. Il n'y en a pas beaucoup ici. Ils sont en bas aussi. L'enfant, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréé dans le Seigneur. On connaît l'exemple de Jésus, qui, enfant, était soumis à ses parents. La désobéissance aux parents est un trait de l'éloignement de Dieu. À l'époque du paganisme, on voit ça dans Romains, mais aussi dans le christianisme. Et dans les deux cas, il est dit « désobéissant à leurs parents » dans ces deux textes. Et de nos jours, cette forme particulière du mépris de l'autorité parentale déborde aussi sur le mépris de l'autorité tout court dans notre société. Il est dit « obéissez en tout à vos parents ». Vos parents, c'est-à-dire le père et la mère. C'est pas que le père, non, c'est à vos parents. Et je n'ai pas mis là, mais il y a beaucoup de textes dans l'Ancien Testament qui évoquent le respect, l'obéissance à la maman. L'étendue de l'obéissance est assez importante puisqu'il est dit « obéissez en tout ». Donc là, ça s'adresse, ça met plutôt la barre très haute pour les parents. Parce que si les enfants doivent obéir et que ça soit agréable dans le Seigneur, il faut que donc l'existence des parents soit aussi agréable dans le Seigneur. Et donc ça met la barre très haute pour les parents. Attention, quand on demande quelque chose à un enfant, est-ce que c'est le moment opportun? Est-ce que c'est sage? Est-ce que c'est dans le Seigneur? Ça nous demande donc de la sagesse. Il faut donc faciliter l'obéissance aussi. Il faut donc respecter ce qu'ils sont en train de faire. Si tout à coup, ils sont en train de, je sais pas, d'être occupés à un bon jeu, et puis tout à coup, brusquement, on les arrête, et puis en disant, et tout de suite, faire ceci. Est-ce que c'est... Voilà, attention à notre manière de demander l'obéissance. Il faut faciliter cette obéissance, donc il ne faut pas être précautionnel. Ayant du respect pour la vie, un enfant est une personne à part entière, et donc digne de respect. Bien sûr, l'obéissance est demandée aux enfants, c'est-à-dire quand ils sont petits, quand ils sont enfants. quand on est adulte et qu'on a encore des parents, ça ne veut pas dire qu'en tant qu'adulte, on doit obéir à nos parents. Non. L'enfance, l'obéissance est demandée à l'enfant. C'est donc dans le temps limité. Jusqu'à quel âge? Je ne sais pas. En tout cas, à un moment donné, un enfant, il doit s'émanciper et être indépendant. Et d'ailleurs, les parents élèvent des enfants pour qu'ils soient indépendants, majeurs et libres de leur vie, de choisir. Donc forcément, quand on est indépendant, on n'a pas à obéir à ses parents. Donc l'obéissance aux parents est limitée dans le temps, quand ils sont enfants. Par contre, ce qui nous est demandé vis-à-vis de nos parents, c'est d'honorer. C'est totalement différent. Honorer nos parents. Et là, c'est pour toute la vie. Revenons à cette double consigne. Enfants, obéissez à vos parents. Et ensuite, il dit, père, n'irritez pas vos enfants. Ah. Il n'est pas dit aux parents, faites-les obéir. Non. Dieu ne demande pas aux tant que parents en disant, faites obéir votre enfant. Soumettez-les. Ou exigez l'obéissance. Non, il n'est pas dit ça. C'est un message aux enfants. Obéissez à vos parents. Par contre, tout de suite après, il y a un message aux parents. Père, n'irritez pas vos enfants. Alors, l'obéissance, c'est un commandement avec promesse. Hein. Dieu avait dit aux enfants, il y a une promesse à la clé. Donc, c'est pour un enfant, obéir, c'est se placer quand même dans ce que souhaite Dieu. C'est le surchemin. Pourtant, lorsque Paul indique comment les parents doivent se comporter à l'égard de leurs enfants, il souligne moins l'exercice de l'autorité que ses limites. Il n'est pas dit aux parents, donc faites-les obéir. Et en recommandant les parents à modérer leur autorité, il y a la claire reconnaissance que les enfants ont une vie propre, une personnalité propre, même s'ils doivent l'obéissance selon le Seigneur. Sont des êtres humains à part entière. Ils ne doivent jamais être exploités, manipulés ou écrasés. Jésus pouvait dire « Ne méprisez pas un de ces petits. » Il est rare d'entendre une explication sur « Père, n'héritez pas vos enfants. » Aussi, je propose un petit focus là-dessus. Paul le dit deux fois, donc en Éphésiens, n'héritez pas vos enfants, mais il est ajouté, élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Élevez-les, c'est-à-dire, c'est le mot grec, c'est un mot grec qui est utilisé que deux fois dans ce texte-là, et puis dans Éphésiens 5, quand Jésus nourrit l'épouse, comme nous, le mari, on doit nourrir notre épouse. C'est-à-dire, c'est le sens de nourrir, d'alimenter. Eh bien, comment on peut élever, donc, éduquer nos enfants en tant que parents, il faut les alimenter, il faut les nourrir, comme Jésus nourrit l'Église. Et là, il nous donnait deux clés, une éducation et des avertissements. Alors, l'éducation, ça peut être traduit par discipline, l'avertissement, c'est peut être traduit aussi par conseil. Et puis, dans le texte qu'on a vu, les Colossiens, n'exaspérez pas vos enfants, ou n'irritez pas vos enfants, suivant les traductions. De peur qu'ils ne se découragent. Alors on peut demander pourquoi les pères. Alors c'est vrai que ce mot grec peut être traduit par père, mais a le sens aussi de père et mère. Au même titre que quand il est parlé à Delphoi, il est traduit par frère, ça peut être traduit aussi par frère et sœur. Et d'ailleurs la traduction Tob de ce texte de Colossiens dit au verset 4, vous les parents, ne poussez pas vos enfants à la révolte. Enfin, ce n'est pas pour culpabiliser les pères, mais il y a peut-être un risque plus grand pour les pères. C'est vrai que c'est quand même souvent aux pères de rappeler la loi, la règle. Et d'ailleurs, ça peut donc le stresser et conduire à rappeler la règle un peu trop durement. Peut-être que nous, les pères, on est moins dans l'empathie, dans la compréhension. On est peut-être plus dans l'exigence. Aussi, c'est dit deux fois. Donc, père, ici, retenons cette exhortation. n'irritez pas vos enfants. C'est vrai que dans le contexte romain de l'époque, l'époque antique romaine, le père avait le droit de vie de mort sur ses enfants, et malheureusement même sur ses épouses. Donc là, c'est une révolution que l'évangile amène. Alors, une exhortation pour les pères, c'est vrai que aussi c'est père et mère, hein, aussi, hein, les parents. Peut-être qu'une maman, quand elle va être fatiguée, peut aussi répéter, crier, s'énerver, et parfois peut-être aussi exploser. Alors une injustice blesse terriblement et peut conduire à la colère. Il y a toujours un côté positif de la colère, c'est qu'elle peut produire de l'énergie, elle peut dynamiser, elle peut donner du courage pour se protéger, pour se mettre en avant. Mais une colère qui peut habiter dans le cœur d'un enfant durablement, c'est très destructeur. Une réalité, je peux vous le dire, dans nos camps familles, dans nos camps, combien on voit de parents adultes qui ont toujours habité par une colère par rapport à un de leurs parents. Et peut-être qu'il y en a dans cette salle. Il y a de nombreux jeunes en colère, de nombreux adultes en colère. Une colère installée dans le cœur de l'enfant. Alors, je ne veux pas évoquer la colère qui correspondait à un état passager, qui d'ailleurs est souvent le fruit de notre nature pécheresse. Mais je vais parler d'une colère qui s'installe dans le cœur d'un enfant, qui va engendrer un comportement contrôlé par la colère. Donc, qui va engendrer un style de vie. Un enfant ou un adulte qui est habité par cette colère peut être enclin à être aussi, on peut voir des indices comme l'hostilité, la provocation, une rébellion contre toute autorité. Des fois, ça peut être un manque de volonté, pas de résistance au mal, une certaine apathie. Des fois, ça se traduit par manque de réussite scolaire. Des problèmes émotionnels sévères. Alors, comment provoquons-nous la colère chez un enfant, une colère qui peut habiter le cœur d'un enfant et d'un adulte plus tard? Il y a une tellement longue liste d'attitudes dans lesquelles nos parents peuvent tomber si facilement que quand on parle en famille de ce sujet avec Elisabeth, on en parle pendant une heure et demie. Bon. Donc je vais juste en deux minutes. Quand on critique nos enfants et qu'il n'y a pas d'absence, et qu'il n'y a aucune absence d'encouragement, quand on met en doute leur capacité, la négligence aussi, un manque d'intérêt à ce qu'ils font, à ce qu'ils ont fait à l'école, en manifestant notre amour que quand ils ramènent une bonne note à l'école, qu'ils ont fait quelque chose de bien. Quand on attend beaucoup trop d'eux et qu'ils sentent une exigence de réussite ou de travail, voilà, exagérée pour eux. Des paroles qui parfois marquent à vie, dans la partie haute, paroles négatives. Mais tu es nul! Tu es bête, mais tu es stupide. Tu es un perdant. Et puis si jamais on dit, tu es une erreur. Je ne t'avais pas désiré. Tu n'étais pas prévu. C'est ce qu'on appelle la violence éducative ordinaire. Alors, encourageons-nous à des paroles qui sont dans la partie basse, mais avec des paroles vraies. Quand on fait un compliment sur un enfant, il faut que ça soit vrai. Mais nos enfants, ils sont beaux. Ils sont beaux à Dieu. Et on trouvera toujours quelque chose de vrai, mais de bien à dire et à relever chez notre enfant. La liste est longue aussi. quand on fait des injustices flagrantes entre enfants, ou des fois une injustice dans l'application des punitions, avec des normes variables, des normes d'éducation de vie ou de discipline variables, et ce n'est pas les mêmes normes entre les parents et les enfants, oui, entre les enfants, des normes différentes. Alors attention à cette attitude, faites ce que je vous dis, mais pas ce que je fais. Nos enfants lisent notre comportement. Et donc c'est notre comportement qui importe. Et puis s'il n'y a pas de limite, ou si les limites sont absentes, ou floues, ou changeantes, incohérentes, excessives. Alors pour les ados, pour les parents qui ont des ados, il faut des limites, mais attention, il y a aussi besoin de repères, mais aussi besoin de souplesse. Donc j'ai parlé de ce que je fais, qui est plus important, de ce que je dis, donc l'exemple. Peut-être la plus grande plus grand danger, le plus grand ennemi de l'éducation parentale pour des parents, c'est la mauvaise gestion de notre propre colère de parents, mauvaise gestion de nos émotions. Donc attention à la gestion de nos émotions. Et puis si jamais ils sentent un conflit entre les époux, les parents, qu'ils puissent vivre aussi que les parents se sont pardonnés et réconciliés. Et puis bien sûr, ce qui va générer une colère et un emboîtement. Une colère qui va habiter le cœur d'un adulte longtemps, quand il y a eu des violences de tous ordres. Je vous laisse lire. Il y a l'abus spirituel, par exemple. Ah, tu vas pas te faire de peine à maman quand même. Tiens, mais si tu fais ça, tu vas faire la peine à Jésus. Je croyais que tu aimais Jésus pourtant. Alors attention, dans je t'aime, il ne faut pas grand chose pour que ça devienne je t'abîme. Alors il y a des remèdes. Communiquer l'amour, remplir un réservoir affectif en étant ferme, bienveillant. Et je vais bientôt m'arrêter parce que l'heure est là. Et comme je suis à la retraite et puis je ne sais plus trop quel est le milieu professionnel, donc je vais être très très succinct sur cette partie. Je rappelle peut-être ce texte, verset 22. Là, c'est juste quelques mots-clés, je vais le lire intégralement. Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres, selon la chair. Non pas seulement sous leurs yeux, comme s'il s'agissait de plaire à des humains, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Quoi que vous fassiez, travaillez-y de toute votre âme, comme pour le Seigneur, non pour les humains, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez comme des esclaves du vrai Seigneur, le Christ. Celui qui agit injustement recueillera l'injustice qu'il a faite, car Dieu n'avantage personne. Maître, traitez vos esclaves de façon droite et juste. Rappelez-vous que vous avez vous aussi un maître dans le ciel. Or, l'apôtre parle du travail dans le contexte de l'esclavage. Au premier siècle, sans doute plus de la moitié de la population était réduite à l'esclavage. L'apôtre n'approuve pas du tout l'esclavage, mais il ne préconise pas non plus de renverser au moyen d'une révolution sociale. Mais il s'adresse aux esclaves croyants et il s'adresse aux maîtres croyants et il les exhorte, les deux groupes, à vivre d'une manière digne du royaume de Dieu, du Christ. Alors peut-être que des maîtres qui avaient des esclaves ont peut-être aussi abusé de leurs esclaves avec peut-être voulant se justifier par ces textes que l'esclave devait tout faire, voilà. C'est pas la leçon qu'on va bien sûr retenir. L'évangile s'adresse aux esclaves comme à des personnes en part entière qui possèdent une dignité propre. et ils demandent au maître de répondre de leurs actes devant leur maître, leur maître dans le ciel. Alors il est parlé de la crainte du Seigneur dans ce texte pour les esclaves. Ça signifie qu'être conscient que nous sommes en sa présence et donc dans notre milieu professionnel. Là, parlons de nous employés, hein. Travailler dans la crainte du Seigneur signifie être conscient que nous sommes dans la présence, même si notre maître terrestre n'est pas toujours en train de nous surveiller, notre maître divin est là. Même si le patron n'est pas dans les parages, Jésus n'est pas absent. Et il sait comment on travaille. Alors l'apôtre ajoute que les esclaves devraient estimer qu'ils travaillent comme pour le Seigneur. Le verset 24 dit « Vous servez Christ le Seigneur ». Donc finalement, ça peut peut-être engager à travailler avec un peu plus de joie peut-être, parce que ce que l'on fait, c'est quand même pour Dieu. Et cela peut renouveler notre motivation à faire notre travail, même si notre travail ne nous passionne pas pour l'instant. Mais ça peut nous renouveler notre énergie, notre motivation. Pourquoi ? Parce que cela rehausse notre travail en lui donnant de la dignité. La dignité de travailler pour Dieu. Alors j'ai marqué pour les employés, faire le travail au mieux, comme pour le Seigneur. Mais ici, il y a des employeurs, ici, il y a voilà, des gens qui sont responsables dans leur sphère professionnelle. Pensez à la justice. Soyez droit et juste. Vous avez un maître dans le ciel. Voilà, je termine, pour nos relations familiales. Paul nous dit en Éphésiens 4, soyez toujours humble, doux et patient. Et on peut prendre ces paroles pour nos relations entre conjoints, avec nos enfants, avec nos frères et sœurs de la communauté. Merci.